Je vous prie, avant même de commencer, d'excuser le fait que je porte des lunettes sombres. C'est tout simplement parce que j'ai un peu trop de lumière et que je ne suis pas tout à fait comme Goethe qui réclamait de la lumière. Je suis d'accord avec sa position philosophique, mais pour d'autres raisons personnelles, je ne peux pas me tenir concrètement à cette injonction. Donc j'en arrive excusez-moi, à l'exposé. Merci beaucoup. Merci pour l'exposé que vous venez de faire, Claudine Tiercelin, qui est une, si j'ose dire, une remise des pendules à l'heure, qui était formidable. Et d'une manière générale, je remercie les organisatrices et les organisateurs de la confiance dont ils me témoignent. Pour ma part, en considérant Einstein et le Collège de France, je voudrais vous parler des attentes à son égard de deux des principaux historiens de la première moitié du XXe siècle. J'entends par là Henri Behr, né en 1863, décédé en 1954, fondateur de la Revue de synthèse historique, devenue depuis Revue de synthèse. Behr fut en fait un formidable entrepreneur intellectuel, à propos duquel j'espère vous donner quelques clés qui feront comprendre la manière dont il a écouté et entendu Albert Einstein lors de son passage à Paris. L'autre historien, c'est Lucien Febvre, 1878, décédé en 1956, qui fut professeur au Collège de France à la chaire d'histoire de la civilisation contemporaine. Histoire, je souligne, civilisation contemporaine. Vous allez voir que ça a une importance. Très actif collaborateur du président à la synthèse, comme on disait jadis, et non moins entreprenant, Febvre prit par exemple la direction en 1932 de l'Encyclopédie française, alors que 3 ans plus tôt, il avait fondé avec le médiéviste Marc Bloch la nouvelle revue Les Annales, Histoire économique et sociale. Et puis quelques années plus tard, en 1948, il fondera la 6e section de l'École pratique des hautes études, dévolue comme Les Annales, à l'histoire et aux sciences économiques et sociales. Le socle de la révolution historiographique propre à la première moitié du XXe siècle a ainsi été scellé par ces deux savants fort actifs, et c'est seulement dans les années 80-90 du XXe siècle qu'a circulé de manière autocritique l'expression « crise de l'histoire » pour désigner une certaine crise du modèle historiographique issu des annales. Il est vrai entre-temps remodelé par Fernand Braudel. Cette crise a suscité parmi les historiens une tentation de mise en abîme que Roger Chartier a élégamment exprimée dans le titre d'un de ses ouvrages « Au bord de la falaise, l'histoire entre incertitude et inquiétude ». De là mon titre qui ironise aussi sur le célèbre opéra de Philip Glass. Or, précisément en 1998, le philosophe romain Enrico Castelli Gattinara, élève de mon regretté collègue de l'École des hautes études Ernest Coumet, dont le grand-père, qui lui-même s'appelait Enrico Castelli Gattinara, était un familier de la Revue de synthèse en son temps. Donc, le jeune Enrico Castelli publiait sa thèse « Les inquiétudes de la raison » et il mettait en évidence un impact des questions phénoménologiques, elles-mêmes provenues de l'apparition de la nouvelle physique en bonne part, donc un impact de cette phénoménologie sur la nouvelle histoire. Et ce geste disons, historiographique et d'histoire de la philosophie a été très remarqué en son temps. À 60 ans de distance, la physique d'Albert Einstein, principalement, et la nouvelle historiographie sont ainsi à mes yeux sur la brèche d'une rencontre transdisciplinaire effective, aussi étonnant que cela paraisse, et parfois périlleuse. Ce qu'il faut mesurer afin de nous prémunir contre certains des périls dont il vient d'être question. Périls qui ont conduit, il y a 20 ans, à un cataclysme savant, enfin académique, comme on dit aux États-Unis, qui s'appelle les Sciences War, où les différentes disciplines se sont entre-déchirées, précisément sur des questions telles que le relativisme, etc. C'est en prévision, disons, c'est pour éviter qu'une telle catastrophe se renouvelle à l'avenir qu'œuvre l'actuelle revue de synthèse, dont j'ai l'honneur d'être le directeur. Donc, on l'a dit plusieurs fois, Albert Einstein est venu au collège entre le 28 mars et le 10 avril 22. Il y a donné une conférence le 31 mars, trois séances de discussion les 3, 5 et 7 avril. Bon, Einstein sera de retour à Paris en 29, soit dit entre nous, quelques mois après ou avant, enfin pratiquement dans la, à peu de choses près, au moment où Husserl lui-même a donné une conférence en Sorbonne. Bon, un historien aime faire un état des traces archivistiques et des sources de seconde, enfin des sources, disons, de littérature secondaire. Je vous épargne cette page pour des raisons d'économie. Alors, les deux historiens vont d'abord adopter une attitude différente à l'égard d'Einstein d'un point de vue très pratique. Henri Behr est disert dans ses publications, il s'explique beaucoup, et il ne cache pas son enthousiasme. Les discussions, surtout les discussions d'avril de 22, l'ont profondément bouleversé. Pour lui, c'était la démonstration de la possibilité d'un véritable dialogue scientifique et philosophique, malgré tout ce que nous avons dit ou ce qui vient d'être dit sur les malentendus, je dirais. Henri Behr avait fait sa thèse sur Gassendi et voyait dans cette circonstance parisienne de 1922 la réitération du réseau de correspondants de Gassendi, de cet esprit encyclopédique du XVIIe, voire d'autres itérations de cet esprit de dialogue, disons, interdisciplinaire, comme on ne le disait pas encore à l'époque. Je me permets, comme 18e-iste, d'oser cet anachronisme. Ils songeaient à D'Alembert, ils songeaient à Condorcet, principalement. Et dans l'enthousiasme de la venue de Einstein, il propose à Paul Doumer, qui est un ami proche, la création d'une fondation pour la science, Centre international de synthèse. Et il va proposer à Einstein d'être aussitôt membre de son conseil d'administration, avec d'autres scientifiques de ce temps, Rutherford, on en a parlé, Volterra, mais aussi Fraser, l'anthropologue. Bon, d'autres... L'idée force, pour parler comme Henri Behr, qui gouverne son action, c'est ce travail d'hybridation constructive entre les compétences savantes, et notamment entre l'histoire et cette nouvelle manière de faire de la philosophie qu'est la sociologie durkheimienne, puisqu'il a, j'ai entendu rire quand on a parlé de constructivisme social dans la salle, je m'insurge en disant que les durkheimiens étaient des réalistes. Un système de représentation, si vous voulez, c'est un objet réaliste pour un durkheimien. Bon, que des auteurs américains ou anglais, David Bloor, ou d'autres, élus les durkheimiens comme des relativistes sociaux, c'est une erreur d'interprétation. Ça peut être démontré par A plus B, ça demanderait quelques séances, mais je n'ai pas envie de le faire aujourd'hui même ici. Alors, la ligne de conduite d'Henri Behr, c'est de lutter contre le clivage en histoire entre deux genres, d'un côté la multiplication des études parcellaires, et de l'autre le triomphe de la philosophie de l'histoire. Soit dit entre nous, on a la même situation en histoire des sciences aujourd'hui. On a d'un côté la multiplication de micro-études simplement tenues entre elles par des chapelets de commentaires scolaires, scolastiques, et de l'autre, des vues de philosophie ou d'épistémologie ou tout simplement d'idéologie quelquefois politique sans même être sociale, parce que les gens qui portent le mot social dans ce discours, ils savent même pas ce que c'est que les sciences sociales. J'ai fait l'expérience de leur demander « dites-moi ce qu'est un fait social », ils sont incapables de répondre. Donc, vous voyez, on peut, en songeant à la situation actuelle, se dire ce que c'était il y a 20 ans pour un historien novateur comme Bay. Il s'agissait de forger, de fonder une nouvelle méthode sur le modèle de ce qu'il avait vu chez les Durkheimiens. Donc, cette fondation pour la science, en 1924, il l'a créée en 1924, auprès des Nations Unies, elle s'inscrit sous le titre Foundation for International Scientific Cooperation. C'est une autre que celle qu'on a commentée quelquefois ici, et je signale qu'elle existe encore comme fondation indépendante. Donc les membres, je l'ai dit, Fraser, Michelson, Pirenne, l'historien, Rutherford, Einstein, donc, et Volterra. En fait, c'est un réseau, disons, d'affinités, je dirais, progressistes, à tous les sens du mot, qu'avait déjà tissé Borel, si on regarde bien. Donc, en une formule simple, du point de vue des relations interpersonnelles, Einstein fut pour Henri Behr un allié et un trophée. Bon. Alors maintenant, qu'en est-il pour Fèvre ? Alors là, il se passe quelque chose d'assez stupéfiant. C'est que le ministre de l'Éducation nationale, qui a pris sur lui de favoriser la création de la chaire proposée à Einstein au Collège de France, Anatole de Monzy, était avec Lucien Febvre, enfin, ils étaient tous les deux à la tête de l'Encyclopédie française. Ils se voyaient pratiquement toutes les semaines, et il régnait entre eux une complicité considérable. De même, pendant ce temps, Febvre entretenu une correspondance tout à fait intense et publiée depuis une vingtaine d'années avec Marc Bloch, qui lui était à Strasbourg, en vue de faciliter l'entrée de Marc Bloch au Collège de France pour une chaire médiéviste. Et on lit cette phrase stupéfiante dans une lettre de Febvre à Bloch. Lettre du 17-18 avril 1933, alors que de Monzy a avancé le dossier, si j'ose dire. Febvre écrit à Bloch inquiet, que se passe-t-il au collège ? La chaire d'Andler, récemment libérée, ai-je une chance ? Bon. Febvre écrit, j'ai déjà contribué activement et modestement à la fois à écarter le péril Einstein. La chaire sera créée, mais ce ne sera pas la chaire d'Andler. Alors là, on a Febvre dans sa dimension manœuvrière, c'est-à-dire qu'il veut promouvoir la nouvelle histoire. Donc, il veut tout faire pour que Bloch soit au collège. Il échouera. Et il essaye d'écarter les entraves, tout en ménageant quand même des possibilités pour Bloch. Alors, pas de mauvais esprit sur ce péril Einstein. C'est un péril à l'égard de l'éventuelle l'approche de Marc Bloch. Alors, je pense à la préoccupation savante de Baer pour les travaux d'Einstein. Sa thèse de 1898, Baer, répondait à l'actualité de la recherche philosophique des deux côtés du Rhin. Les bouleversements qui avaient affecté les fondements de la géométrie et de l'algèbre avaient éveillé l'attention des philosophes sur une nécessaire révision de la théorie de la connaissance kantienne. Ce mouvement néo-kantien, par exemple, les novateurs du monde de la sociologie, Durkheim d'un côté en France, Simmel du côté allemand, en sont partie prenante. Et Henri Baer considère qu'il faut l'aborder sous l'angle d'une histoire des connaissances. Telle est son approche. Il se trouve que j'ai un étudiant que je partage avec l'Institut de Vienne qui s'appelle Martin Strauss et qui fait sa thèse sur les rapports entre les débuts de la sociologie et ce mouvement néo-kantien en langue allemande et en langue française. Finalement, il est arrivé, dans une terminologie bien germanique, à parler de sociologisierung des a priori kantiens, la sociologisation des a priori kantiens. C'est une idée qui est très fine pour analyser ce que font nos sociologues. Et un philosophe et historien comme Baer est pris dans ce mouvement. D'autant plus que Baer est très attentif aux travaux des sociologues de langue française et de langue allemande de son temps. Et puis, on a parlé du congrès 1900, je crois, ce matin ou hier. Il ne faut pas oublier que pendant le congrès de Paris, l'exposition universelle 1900, il y a eu un grand congrès international de philosophie qui s'est tenu à Paris. Et que les sociétés philosophiques des différents pays, se sont entendues sur un programme commun de de publication des œuvres complètes de Leibniz. Et quels sont les petits soldats français et allemands qui vont être mobilisés ? En Allemagne, c'est Ernst Cassirer qui soutient sa thèse en 1903 sur Leibniz. En France, et il faut le dire dans cette salle même, c'est Maurice Halvax qui publiera en 1906 le petit ouvrage de référence sur l'œuvre du philosophe de Hanovre. Ceux qui m'ont entendu l'an dernier, ici même, enfin dans une itération antérieure de ce cycle, m'ont entendu dire que Halvax, alors qu'il était professeur à Strasbourg, étant informé de la publication de l'article de Heisenberg sur le principe d'incertitude, dans son carnet, puisqu'il avait, il avait des carnets où il notait ses réflexions philosophiques et savantes, immédiatement identifie en quoi cela altère les conceptions de la causalité. C'est pour vous dire qu'un bon durkheimien, avec cet arrière-plan de réforme du kantisme, de réforme par la méthode sociologique, je parle là comme Durkheim, hein, c'est une méthode, hein, voit tout de suite dans un article de physique comme celui d'Heisenberg, disons, une incidence sur les catégories de la causalité. Même chose au début en 1903, dans l'ouvrage de Durkheim et Mauss que nous venons de republier avec quelques collègues, c'est-à-dire de quelques formes primitives de classification. De quoi est-il question dans cet ouvrage ? Je vous donne un extrait de la conclusion en quelques lignes. Les classifications primitives ne constituent donc pas des singularités exceptionnelles sans analogie avec celles qui sont en usage chez les peuples les plus cultivés. Elles semblent au contraire se rattacher sans solution de continuité aux premières classifications scientifiques. Les choses n'y sont pas simplement disposées sous la forme de groupes isolés les uns des autres, mais ces groupes soutiennent les uns avec les autres des rapports définis et leur ensemble forme un seul et même tout. De telles classifications sont donc avant tout destinées à relier les idées entre elles, à unifier la connaissance. À ce titre, on peut dire sans inexactitude qu'elles sont œuvres de science et constituent une première philosophie de la nature. Un autre auteur peut venir à l'esprit, Lucien Lévy-Brulle, et ses travaux sur ce qu'il a qualifié de mentalité primitive, travaux qui ont été, disons, pour ainsi dire, révisés dans les années 70-80, auxquels on a reproché un ethnocentrisme, disons, reproche anachronique, à mon sens. C'est-à-dire, quand on comprend bien ce que faisait Lévy-Brulle et les conditions dans lesquelles il le faisait, c'est un faux procès. Mais ce serait trop long de m'en expliquer. Donc, en 1922, Henri Bert était tout disposé à entendre ce qui, chez Albert Einstein, contribuait à faire réviser les catégories de temps, d'espace et de causalité. Or, à cette date, son programme historiographique lui paraissait accompli. Il s'exprime dans la colonne de la revue de synthèse, il considère que, bon, au bout de 20 ans, de 10 ans, c'est bon, ça y est, on a réussi à faire passer un programme historiographique. Et il transforme la revue qui était de synthèse historique en une double revue, section de synthèse historique et section de synthèse générale. Alors la synthèse historique, c'est la consolidation de la ligne antérieure. La synthèse générale, c'est le dialogue avec les scientifiques, physiciens, mathématiciens et biologistes. Voilà son objectif. Toujours la même méthode, cette synthèse idée-force, mais aujourd'hui étendue à l'état des connaissances du moment. Alors, vous voyez, je crois, la position de Henri Bell. J'en viens à Lucien Febvre. Au départ, il a foncièrement partagé la conception bérienne de la synthèse historique, Et je pense qu'il est pertinent d'aller considérer son grand ouvrage, Le problème de l'incroyance au XVIe siècle, La religion de Rabelais, publié en 1942. Le voici qui réfute l'anachronisme de l'histoire des idées. Il plaide alors pour une reconstitution rigoureuse des conditions de la connaissance. Et voici son argument. À chaque civilisation, son outillage mental. Le concept important, c'est outillage mental. Bien plus, à chaque époque d'une même civilisation, à chaque progrès, soit des techniques, soit des sciences qui la caractérisent, un outillage renouvelé, un peu plus développé pour de certains emplois, un peu moins pour d'autres. Un outillage mental que cette civilisation, que cette époque n'est point assurée de transmettre intégralement aux civilisations, aux époques qui vont lui succéder. Il pourra connaître des mutilations, des retours en arrière, des déformations d'importance. Ça, c'est typiquement un objet d'historien, hein, ces transformations. Bon. Ou des progrès, au contraire, des enrichissements, des complications nouvelles. Il vaut pour la civilisation qui l'a forgée, il vaut pour l'époque qui l'utilise. Il ne vaut pas pour l'éternité, ni pour l'humanité. Pas même pour le cours restreint d'une évolution interne de la civilisation. S'agissant des hommes du XVIe siècle, ni leur façon de raisonner, ni leurs exigences de preuve ne sont les nôtres. Elles ne sont pas même les façons de raisonner les exigences de preuve de leurs petits-fils. Henri Bert, commentant ce passage dans la préface du livre, ajoute « Febvre ne parle-t-il pas lui-même de l'effort persévérant de l'intelligence humaine. Alors voici l'objet de Fèvre. Et d'ailleurs, dans le tome 1 de l'encyclopédie française, enfin, ce tome 1 a pour titre « L'outillage mental contemporain, mathématiques et langage ». Et le tome 2, c'est « La physique ». Et très longuement, il explique que l'agenda du tome 2, c'est montrer cet effort persévérant de l'intelligence humaine dans la formation des théories récentes. Raison pour laquelle il a mobilisé De Broglie, enfin Louis De Broglie comme il dit, les deux Curie, les deux Joliot, enfin les deux De Broglie. Enfin bon, il aime beaucoup ce genre de phrase. Bon. Donc, ce qui intéresse Fèvre dans le fait d'Einstein, c'est le bouleversement de l'outillage mental au XXe siècle. De brefs textes de Fèvre parus dans les annales en 43 et en 55 ont visé à entraîner les jeunes historiens, les jeunes philosophes, bref, les jeunes normaliens, dans le monde post-einsteinien. En 43, c'est une conférence « Vivre l'histoire » qui s'adresse donc à ces nouveaux élèves. Il parle un peu par allusion, il y aura un bel article à écrire aujourd'hui sur ce fait étonnant que depuis 30 ou 40 ans, sous la poussée de la physique moderne, tous les vieux systèmes scientifiques sur quoi nous reposions nos inquiétudes se sont ébranlés et renversés. Et pas seulement les systèmes, mais les notions de base qu'il faut considérer à nouveau et remettre au point. Car les historiens peuvent ne pas s'en apercevoir, la crise de l'histoire, et on a vu que le mot « crise » est dans le vocabulaire de Valéry, il est aussi dans le dispositif conceptuel de Husserl, n'a pas été une maladie spécifique frappant l'histoire seule. Elle est un des aspects, l'aspect proprement historique d'une grande crise de l'esprit humain. Ou plus précisément, elle est l'un des signes, une des conséquences d'une transformation très nette et toute récente de l'attitude des hommes de science et des savants vis-à-vis de la science entendue du point de vue de l'unité de la science. C'est la science avec un S majuscule. Alors, le pathétique de cet appel est éclairé par un texte que Fèvre publie en 55, toujours dans les annales, après la mort d'Albert Einstein, et qu'il intitule « Méditation ». Einstein vient de mourir. Ne parlons pas de génie, le mot est prostitué. Disons que, par la nouveauté des idées qu'il a conçues, par leur profondeur, par leur répercussion de toute nature, elles ont eu sur la pensée des hommes d'aujourd'hui, par cette répercussion, il a mérité d'être inscrit de son vivant sur la courte et magnifique liste des 8 ou 10 plus grands esprits scientifiques de tous les temps, de tous les pays. Mais pourquoi, en quoi peut-il nous intéresser ici, dans les annales, en tant qu'historien? En quoi et pourquoi l'apparition et l'œuvre de cet homme, cet extraordinaire éclatement d'intelligence, doit-il être rappelé dans une revue tout entière consacrée à l'élaboration d'une histoire science de l'homme? L'histoire ne se sépare pas des disciplines qui l'entourent. Aucune discipline ne se sépare jamais de ses voisines. Toutes sont liées entre elles par une solidarité effective et puissante. Il se peut que cette solidarité ne soit pas perçue spontanément par les hommes qui cultivent tel ou tel domaine particulier. Il se peut que ces hommes se réduisent volontairement au rôle de spécialistes dont une paire de solides œillères constitue l'équipement essentiel. C'est Fèvre qui parle comme ça. Il est toujours assez cru dans son... Cet aveuglement n'empêche pas les sciences à la même époque. Toutes les sciences, de baigner dans un même identique climat. La crise de l'histoire, l'incontestable crise qui traverse l'histoire dans notre monde contemporain, les attaques dont elle est l'objet de plusieurs côtés opposés à la fois, les incertitudes et les tournoiements sur elle-même dont elle donne le spectacle au quotidien, tout cela n'est pas la séquelle d'une maladie propre à la vieille Clio. Tout cela est l'aspect spécifiquement historique d'une grande crise de l'esprit. Et cela, il appelle, enfin, il le qualifie de grand drame de la relativité. Alors j'espère que vous m'avez suivi quand j'ai essayé de vous restituer ce que je pourrais appeler l'outillage mental de Lucien Febvre. Donc, pour lui, une époque savante est caractérisée, disons, par une unité des sciences, unité donc, dont le propre est donc une homogénéité des outillages mentaux, et cela est caractéristique d'une civilisation. Donc s'il y a une brèche dans les catégories du temps, de l'espace, de la causalité, de tout ça, c'est une subversion des outillages mentaux antérieurs qu'il n'aborde pas de manière défensive, au contraire, dont il dit aux étudiants, aux jeunes étudiants qu'il a en face de lui, « Allez-y, informez-vous. » Et prenez au sérieux le fait que, en étant historien, anthropologue, linguiste, tout ce que vous voulez, vous avez à travailler dans ce monde-là. Alors, un peu plus loin dans le même texte, il qualifie cette crise de civilisation décivilisée. Or, je vous rappelle qu'il était professeur de la chaire d'histoire de la civilisation moderne. Donc il faut comprendre que, et la civilisation moderne va pour lui de pair avec l'essor des sciences au XVIe siècle. Donc il y a chez Febvre une angoisse liée à son expérience de la Première Guerre mondiale, ça se retrouve dans ses correspondances de la Seconde Guerre mondiale, une angoisse de la décivilisation. Et pour lui, enquêter sur, enfin d'abord prendre de plein pied l'état des sciences, de toutes les sciences du XXe siècle, enquêter en l'occurrence sur ces outillages mentaux anciens, c'est se donner le moyen d'affronter cette crise. Alors, il est malheureusement 32 minutes. J'avais 30 minutes, si j'ai bien compris. Pardon ? Oui, j'ai une page, si je saute l'avant-dernière. Dans l'avant-dernière, j'aurais donné trois pistes méthodologiques, disons, pour un agenda d'histoire des connaissances ou d'histoire des sciences à tenir aujourd'hui. Je m'en abstiens, je ne suis pas là pour faire ma promotion. J'en ai parlé dans un exposé la semaine dernière, dans un autre lieu. Mais je résume en un mot, donc ça tiendra, je pense, dans le temps. Baer et Febvre, dans ce mouvement qui commence à la fin du XIXe siècle, tentent une opération d'historicisation, si vous me permettez cette formule un peu à l'allemande, des a priori kantiens. Vous voyez ? Alors, c'est une sorte de contradiction, parce que les a priori sont des catégories logiques, disons, logiquement antérieures. Donc, l'historicisation d'une catégorie logique, ça pose un petit problème de rapport entre la logique et l'histoire. Chose qui m'intéresse au premier chef, comme historien des maths et autre chose comme ça. Mais ce sur quoi je veux insister, et disons, puisque j'ai 30 secondes avant l'arrivée à 34 minutes, c'est que cette incitation de Febvre a touché toute la génération des littéraires, comme on dit à l'école normale, d'après-guerre. Et je ne suis pas surpris que dans cette génération, on ait trouvé une quantité considérable de gens qui se sont emparés, disons, de la physique contemporaine, en jonglant avec les analogies, en travaillant les métaphores, etc. Bref, en préparant la Science's War. C'est-à-dire que tout ça était très joli, ça fait du chic parisien, ça a eu un succès fou de l'autre côté de l'Atlantique, et puis un jour, il y a eu une réaction des physiciens d'outre-Atlantique. Bon, alors... notre rôle consiste, enfin mon rôle, je l'assume, je suis volontaire pour assumer un rigorisme à cet égard, et à poser d'un point de vue plus rigoriste et non pas programmatique dans le mouvement du début, de la fin du XIXe siècle, cette question de l'historicisation de ces catégories logiques. Il y a du pain sur la planche. Donc, si jamais il y a des étudiants qui veulent s'inscrire en doctorat, welcome on board. Merci infiniment. Merci pour votre attention.
Merci. Merci pour cet exposé donc, sur l'utilisation d'Einstein par les historiens. Une remarque sur la chaire créée pour Einstein en avril 1933 dans la loi des finances par Anatole de Monzy.
Oui.
Lucien Febvre y a référé comme un péril. Le péril, c'eût été que ce ne fût pas une chaire supplémentaire.
C'est ça, exactement.
Hein, c'est ça le péril. Au fond, Langevin voulait faire venir Einstein, qui était chassé de Berlin, et cette chaire, elle aurait été prise sur le volant des chaires disponibles. Or, ce qui s'est passé, je le rappelais hier matin, c'est qu'Anatole de Monzis, sans consulter l'Assemblée des professeurs, parce qu'il n'y avait pas le temps, mais avec leur accord, a créé cette chaire. Et donc, le péril était donc
Il faut faire cette mise au point, et je suis désolé de ne pas avoir pris le temps de faire ce développement, parce que c'est tout à fait juste, parce que sinon il y aurait des malentendus liés à la personne d'Einstein ou à la personne de Febvre, d'autant plus que le destin malheureux de Marc Bloch pendant la guerre et le fait que Febvre ait voulu coûte que coûte publier les annales pendant la guerre, a fait l'objet de surinterprétations de très mauvais coup dans l'historiographie.
Alors, juste un mot sur cette chaire, parce que c'est tout de même intéressant. Elle a été créée en 1933 pour Einstein, qui ne l'a pas occupée.
Oui.
Qui n'a pas occupée, et donc elle est restée libre. Elle est restée libre, heureusement, puisque en 1944, à la Libération, c'est cette chaire qui a permis de trouver une place pour les professeurs qui avaient été chassés. Puisque n'oublions pas que Langevin avait été forcé de prendre sa retraite, qu'il avait été remplacé par Maurice de Breuil, et que Maurice de Breuil, ils ont tous les deux coïncidé pendant un an à peu près. Et puis surtout, il y avait Mandelbrot, qui était parti aux États-Unis, à Rice, et on l'avait remplacé. Dans sa chaire avait été élu. Bon, maintenant, je ne sais plus qui avait été élu dans cette chaire, mais toujours est-il qu'en 1944, on s'est rappelé qu'il y avait la chaire d'Einstein. Et c'est ça, c'est celle-là qui a permis de retrouver une place pour les professeurs qui avaient été révoqués. Et c'était un drôle de destin de penser que c'est cette chaire-là.
Il est bon d'avoir un tampon.
C'est cette chaire-là qui a permis de trouver une place au professeur chassé du Collège de France. Bon, sinon, moi, je me demande si il y a une utilisation de cette métaphore einsteinienne par les historiens, mais est-ce plus qu'une métaphore?
Attends, c'est-à-dire que les mots-clés, ce sont vraiment espace et temps. Si on regarde les articles de la revue de synthèse historique ou générale et des annales, disons, postérieures à la Seconde Guerre mondiale, la fréquence d'articles qui s'intitulent « L'espace et le temps chez les blablabla » est considérable. C'est-à-dire que c'est une espèce d'enquête qui a été promu par les deux historiens. Il nous manque... les anthropologues ont essayé quand même de faire une synthèse de tout cela, mais là aussi, il y aurait des choses intéressantes à développer.
Une ou deux questions qui peuvent se poser.
Oui.
Évidemment, ça fait penser que dans les commentaires qu'on a fait de cette intervention à la Société française de philosophie, on a surtout parlé de Bergson, mais il y a aussi des interventions de Meyerson, oui, ou de Pierron, qui allaient peut-être plus dans ce sens d'une réflexion,
ah oui,
sur ces catégories.
Je suis parfaitement d'accord. Et justement, Henri Behr n'est pas un idéaliste au sens de ce qu'a pointé Claudine Tiercelin. Et alors, Lucien Febvre encore moins. Et d'ailleurs, y compris leur attention à ce qui se passe chez les Durkheimiens repose aussi sur le fait qu'ils reconnaissent que ce n'est pas là un idéalisme. Et, excusez-moi. Donc, en résumé, il y avait là un canal préparé pour une attention, à mon sens, plus robuste. Et moi, je me désole, je vais le dire, je vais peut-être recevoir des courriers ravageurs, mais je me désole de l'écho qui est accordé en permanence à Bergson. Je ne sais pas, ça doit faire bien de citer Bergson. Voire à Deleuze, hier j'ai entendu parler de Deleuze, mais enfin, j'aimerais savoir quel texte d'Einstein Deleuze a lu, sans parler de Latour. Parce que là, j'ai eu l'occasion de nombreuses discussions avec Latour, à l'égard duquel je n'ai pas d'antagonisme humain particulier. J'ai des divergences profondes sur le fond, mais je mets au défi quelque auteur que ce soit de me montrer un commentaire explicite d'Einstein chez les deux auteurs dont je viens de donner le nom. Hein. Et bon, bah, ça fait partie de la dénonciation de l'affaire Sokal et compagnie. Oui. C'est-à-dire qu'il fallait là aussi remettre les pendules à l'heure. Hein.
Bon, on va arrêter cette conversation-là, et parce que nous avons encore une communication, celle de Jean-Michel Rabaté, à qui je voudrais donner maintenant la parole.
Bien sûr.